Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire ?
Juste devant la grille, s'il te plaît.
Bah, c'est nouveau, ça.
Mais maman, mes copines, elles vont être trop jalouses. T'as vu comme elle est stylée, notre voiture ?
Eh, comme ta mère.
Démarquez-vous avec style. Grâce à la Toyota EcoCross, à partir de 119 euros par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Toyota.
Toyota EcoCross Dynamique LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990 euros, réservé aux particuliers pour toute commande entre les 3 et 18 janvier. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Kouhouline, ça s'écrit Kouchoulaïn. Ce Kouhouline est un des principaux personnages de la mythologie celtique irlandaise. Encore un héros à la force surhumaine. C'est vraiment le prototype du héros, fils du dieu guerrier Lûr. Il est l'avatar du dieu Ogmios, qui est un petit peu l'équivalent irlandais de l'Hercule des Romains et de l'Héraclès des Grecs. Un personnage au pouvoir gigantesque. Geste de Kouhouline, c'est la plus vieille saga de l'Europe celtique, une tradition qui la place en Irlande aux alentours de l'an -35, -30 pendant le règne du roi d'Ulster, Conor. Les récits primitifs qui datent sans doute de cette période sont déclamés par les bardes. C'est toute une transmission orale, bien entendu, et la légende, elle sera ensuite fixée par écrit. Le plus ancien texte original qu'on ait, il est à la bibliothèque de l'Académie royale de Dublin. C'est un moine qui l'a retranscrit et ça ne remonte qu'à l'an 1100. C'est donc relativement récent, bien entendu. Même à partir de cette époque, les différents épisodes de la saga de Kouhouline n'ont cessé d'être changés, remaniés, modifiés. Aucun manuscrit ne relate en une seule narration l'ensemble des exploits du champion de l'Ulster. Il faut, si l'on veut rassembler tous les éléments de sa longue vie, il faut 76 récits dont certains sont carrément contradictoires.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On va essayer d'y voir clair dans tous ces récits. C'est Julia Lebrun qui est allée fouiller tout ça, aller puiser des éléments de la vie de Kouhouline dans, encore une fois, ça s'écrit Kouchoulaïn, hein, dans les 76 récits en question. On dit qu'il a été engendré trois fois d'abord. Il avait une seule mère, mais il avait trois pères. Le roi d'Ulster, qui avait abusé de sa mère, son mari et un autre roi qui s'appelait le roi Swaltim. Mais on dit aussi qu'au festin de noces, le dieu Lûr aux longs bras, se serait fait un moucheron pour se noyer dans la coupe où buvait la mère de Kouhouline et participer ainsi à la conception de l'enfant. Vous voyez pourquoi, quand il naît, ce héros a toutes les forces, tous les pouvoirs, bien entendu. Alors, il va grandir chez Swalti, mais à seulement 5 ans, il entend parler des jeux que les jeunes garçons d'un village voisin ont l'habitude de pratiquer. Et comme il ne doute de rien, il décide de les rejoindre, malgré l'avis de sa mère, qu'il trouve un petit peu jeune et qui se met en travers de son chemin, si je puis dire. Alors lui est là, avec son bâton, sa massue de jeu, sa balle. Il faut être invité quand même pour se mêler au jeu de Yemen Macha, c'est le nom de la ville. 150 joueurs sont là qui ne veulent pas entendre parler de ce concurrent qui ne s'est pas inscrit. On se retourne contre lui, on l'insulte, on va même lui jeter des balles de fer et le garçon commence à subir tous ces assauts. Il ferma un œil qui devint aussi petit que le chat d'une aiguille et ouvrit l'autre plus grand qu'une coupe d'hydromel, dit la légende. Il ouvrit les mâchoires jusqu'aux oreilles et du sommet de sa tête jaillit un immense jet de sang. Vous avez compris que le personnage en question est une sorte de barbapapa de l'époque irlandaise, ce qui lui permet toutes sortes de transformations qui évidemment non seulement permettent d'échapper aux assauts de l'ennemi, mais permettent aussi de pétrifier l'ennemi sur place. Elles le prendront, ces transformations, dès qu'il sera en état de fureur guerrière. C'est comme une sorte, si vous me passez la comparaison, comme une sorte de Hulk avant la lettre. Vous savez qui, lorsqu'il se met en colère, se transforme complètement. Les Celtes appellent cet état le Feg. C'est une expression à la fois religieuse et magique que l'on trouvera dans bien d'autres légendes du reste. Bref. il va tomber à bras raccourcis sur les participants de ces fameux Jeux Olympiques irlandais, si je puis dire. Il en renverse 50, il poursuit les autres jusqu'à la salle du roi, et le roi le prend par le coude en lui reprochant de maltraiter ses camarades. « Tes façons manquent de douceur, mon garçon, » dit-il. « C'est normal, » répond le gamin, « ils n'ont pas été gentils avec moi. » Et le roi est très content d'avoir découvert celui dont il devine qu'il sera son nouveau champion. Il le prend dans ses bras et quelque temps plus tard, un riche forgeron qui s'appelle Coulan, qui vient prier le roi à festoyer chez lui avec ses compagnons, ce forgeron suggère qu'on invite l'enfant, là, ce gamin qui a remporté haut la main tous les jeux. Le garçon répond qu'il les rejoindra quand il aura fini de jouer. Seulement, quand il arrive chez le forgeron, on a lâché le chien de garde de la maison, une espèce d'énorme molosse. Et quand il arrive, lui, le pauvre Cuchulín, avec ses balles, le chien féroce se jette sur lui. L'enfant, à ce moment-là, lui décoche une de ses balles dans la gueule pour l'étouffer, puis il lui serre le cou et le projette à toute volée contre un pilier de pierre, ce qui lui écrase le crâne. Si vous vous rappelez ce qu'on a raconté lundi, on est extrêmement proche ici de la légende d'Hercule, bien sûr, d'Héraclès. Les convives accourent, on est stupéfait de la puissance de cet enfant qui simplement dit « J'élèverai pour toi, » il parle au roi, « J'élèverai pour toi un chiot né des mêmes parents et en attendant qu'il soit assez grand pour te défendre, c'est moi qui serai ton chien. » Et à ce moment-là, le grand prophète va lui décerner un titre, il va lui donner le nom de Cuchulín, c'est-à-dire le chien de Coulan. La cinquième rhapsodie irlandaise de Sir Charles Villiers-Stanford, l'orchestre de l'Ulster, justement, était sous la direction de Vernon Henley.
Vous écoutez Radio Classique.
Vous doutez bien qu'on va essayer de l'entraîner, ce jeune homme, à la force et au pouvoir tellement extraordinaire. Si quelqu'un ce jour devait prendre les armes, immortel serait sa gloire, mais bref, son destin sur terre. Et vous avez bien compris que ce garçon est maintenant doué d'une réputation extraordinaire. Tout le monde connaît sa force, ses capacités hors du commun. Cuchulín va trouver le roi et demander à ce qu'on lui fournisse des armes et le plus vite possible. Il est un petit peu frêle, évidemment, ce garçon. Mais les seuls fers, lances et boucliers qui ne se brisent pas sous sa poigne, le seul char qui ne s'écrase pas sous son poids, ce sont ceux du roi lui-même. Et donc, c'est le roi qui va être obligé de lui donner ses propres armes parce qu'aucun forgeron n'est digne de lui fournir des armes à sa hauteur. « Peu me chaud que je vive un siècle ou un jour, » dit-il, « si le renom de mes exploits doit hanter la mémoire des hommes. » Et ça, c'est un des aspects essentiels de l'épopée de tous ces héros. Ils veulent marquer la mémoire, ils veulent sortir de la quotidienneté circulaire du temps pour s'imposer dans les mémoires et marquer leur époque. C'est peut-être d'ailleurs le trait le plus commun qu'on puisse trouver à tous ces héros. D'ailleurs, il fait beaucoup penser au Achille de l'Iliade et l'entraînement qu'il subit étant jeune est extrêmement proche de celui qu'Homère décrit pour l'entraînement d'Achille, comme si là encore il y avait eu bien sûr inspiration directe. Il s'en va défier à ce moment-là trois ennemis du roi, dont il rapporte le soir même les têtes en trophée. Il a été excité par le combat, il est pris par cette chaleur guerrière qui vient se saisir des guerriers jusqu'à faire fondre la neige autour d'eux. Alors, on lui envoie, pour le calmer, 50 jeunes filles. Vous voyez comme tous ces récits sont parfaitement respectueux de la gent féminine, n'est-ce pas? Mais les 50 jeunes filles en question ne l'intéressent pas. Il faut le plonger de force dans une cuve d'eau froide et il est tellement chaud bouillant, c'est le cas de le dire, on pourrait le qualifier de chaud bouillant, ce Kukulin, il est tellement chaud que l'eau, lorsqu'on le plonge dans cette cuve d'eau froide, l'eau se met à se vaporiser et la cuve vient à éclater. Alors il faut une deuxième cuve et l'eau se met à bouillir. Il en faudra une troisième pour apaiser la colère du héros. Lorsqu'il arrive à 16 ans, parce que pour l'instant il n'a que 16 ans, hein. Il est si beau et si vigoureux, nous dit la légende, si adroit et si plein d'esprit que les chefs commencent à craindre pour la vertu de leurs épouses et pour celle de leurs filles. Alors il est grand temps de le marier. Il faut vous dire qu'il a jeté son dévolu sur la belle, sur la pure Émère. Seulement, le beau-père potentiel ne veut pas du tout de lui pour gendre. Il décide de le soumettre à des épreuves avec l'espoir qu'il ne revienne pas des épreuves en question. Là aussi, une petite résurgence, réminiscence de l'épopée d'Héraclès, bien entendu, avec ses 12 travaux. On impose donc à Kukulin de parachever son éducation guerrière chez Skatek, qui est une sorcière qui vit dans un lieu assez extraordinaire, dans un antre caché dans les montagnes de l'Écosse. Bien sûr, il va triompher de tous les périls, devenir le meilleur élève de Skatek, qui lui offre une éducation complète et qui va l'initier à la magie, j'allais dire, il ne manquait plus que ça, à l'extraordinaire étendue des pouvoirs dont déjà il disposait. Elle lui apprend le maniement de ce qui va devenir son arme fétiche, le javelot, mais attention, c'est un javelot particulier, il s'agit d'un javelot de feu. Au bout de 10 lunes, il rentre en Irlande, mais lorsqu'il vient réclamer sa fiancée, le père furieux lui refuse l'accès au château. Alors Kukulin, d'un seul bond prodigieux, va franchir les 3 remparts, atterrir dans la cour, massacrer tout le monde. Enfin bon, je ne vais peut-être pas vous décrire l'intégralité des ravages causés par ce guerrier qui, du bout en bout de la légende, qui, page après page, ne fait que casser des murs et renverser des tables. Concerto pour clarinette de Stanford, c'est Michael Collins qui dirigeait l'orchestre symphonique de la BBC.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
À cette époque-là, régnait en Connaught le roi Ailill et son épouse, qui s'appelle la reine. Alors ça s'écrit d'une drôle de façon, ça s'écrit Medbe, mais ça se prononce Maeve. Cette Maeve était une femme très autoritaire, avide de pouvoir, et un jour se déclenche une dispute entre les époux pour savoir lequel des deux est le plus riche. Or, il se trouve que le roi est propriétaire d'un magnifique taureau dont Maeve n'a pas l'équivalent. La reine est furieuse, elle apprend qu'il existe en Ulster un taureau encore plus beau, une bête magique. Les négociations d'achat échouent et la reine décide de faire la guerre à l'Ulster pour s'emparer de ce fameux taureau. Elle va faire alliance avec tous les rois d'Irlande et fixer la date de l'expédition à l'époque de la fête de la Samhain. C'est la période idéale. Tous les hommes de l'Ulster sont en effet sous le coup d'une malédiction. Ils avaient maltraité une sorcière, donc ils sont maintenant complètement prostrés dans leur lit, etc. Et Kukulin est donc le seul à pouvoir, parce que lui n'est pas frappé par la malédiction, bien entendu, il est le seul à pouvoir défendre sa terre contre la razzia organisée par cette reine Maeve. Il promet de tenir l'armée qu'on lui envoie en respect à lui tout seul. Il est ce qu'on pourrait appeler le héros solitaire. À ce moment-là, il est celui auquel toute la communauté s'en remet pour la sauver et pour empêcher l'armée ennemie d'avancer au-delà des frontières, des limites fixées. Il va utiliser la magie, l'alphabet sacré. Il place sur la route des bouts de bois où il a gravé des formules d'interdiction et l'armée ne va pas pouvoir aller au-delà. Elle est obligée de camper. La reine décide à ce moment-là qu'il faut se débarrasser de cette espèce de malappris qui a tué 100 hommes dans la même journée et qui, harcelant ses ennemis jour et nuit, est en train de décimer tous les coalisés irlandais. Il est en train de devenir la terreur de l'Irlande, ce Cuchulainn. Et pour conjurer l'hémorragie, le chef de l'armée de la reine, qui s'appelle Fergus, vient rendre visite au héros de l'Ulster. Il faut imaginer les deux hommes qui sont là, qui se jaugent, où ils se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Chaque matin, un seul guerrier des armées irlandaises, qui est élu parmi les plus vaillants, viendra au guet se mesurer à Cuchulainn en combat singulier. Voilà une façon d'éviter que le héros ne vienne causer de trop graves dommages à cette armée coalisée. Ils font un pacte solennel, eux-mêmes ne se combattront jamais. Et ils se fuiront si, d'une façon ou d'une autre, ils se retrouvent face à face sur un champ de bataille. Donc, chaque jour, il y a ce champion, si je puis dire, il ne doit pas être très fier, qui vient se confronter au héros, à ce passage à guet. Et évidemment, chaque jour, le champion, il laisse la vie. Et le soir, Cuchulainn se couche, sans doute blessé, sans doute affaibli, mais il a ce baume merveilleux qui lui permet de panser ses blessures et de venir à bout de toutes les plaies. Vient alors le tour de Ferliad de partir pour le guet. C'est un ami d'enfance. En tout cas, c'est un ancien condisciple de Cuchulainn, ce Ferliad. Il s'était juré une amitié éternelle. Sauf que là, on ne lui laisse pas le choix et Cuchulainn est obligé de l'affronter. Mais c'est un ami, ils vont se battre. Alors là, ça ne dure pas comme d'habitude quelques instants. Non, ça dure 3 journées entières. Ils se battent sans grande motivation et chaque nuit, Ferliad fournit des vivres à Cuchulainn tandis que celui-ci lui apporte des plantes pour guérir ses blessures. Vous avouerez que ce sont de drôles de combattants. Finalement, ils finissent par comprendre que ça ne peut pas durer et au 4e jour, ils revêtent leurs plus belles armes et le combat, cette fois, va être un combat féroce. Cuchulainn est gravement blessé. Finalement, il est contraint d'utiliser la lance magique, le terrible Gaebolga, vous savez, cette espèce de javelot de feu qui est son arme secrète et il va frapper son ami. Mortellement, il le frappe au bras. Il est anéanti, hélas. Que ne suis-je en ta place, dit-il, au lieu de traîner sur la terre mon existence lamentable, puisse-t-elle désormais être brève? Je déplore ton sort. Combien, Ferliad, tu m'étais cher. Et après cela, Cuchulainn a perdu tout entrain. Il devient d'une grande faiblesse. Alors arrive un guerrier de haute taille. C'est son père. C'est le dieu Lugh, ça s'écrit L-U-G-H, c'est l'ancienne racine indo-européenne qui signifie la lumière. Il va l'endormir pendant 3 jours et 3 nuits et pendant ce temps, il va lui-même remplacer son fils au combat parce qu'il n'est pas question pour autant que les coalisés viennent conquérir l'Ulster. Et quand Cuchulainn est réveillé, tout à fait faible, il se précipite vers le dieu et il va mettre en fuite l'armée ennemie.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il arrivera encore bien d'autres aventures à Cuchulainn et il y en a une qui devait vraiment le briser puisqu'il sera amené à tuer toujours avec son espèce de javelot de feu là. Il va être amené à tuer son propre enfant, un enfant terrible qu'il avait eu d'une Amazone et ça ce sera d'une certaine manière le coup décisif et fatal. La reine Maeve est assoiffée de vengeance, on peut la comprendre, et à cette époque, ses armées vont déferler de nouveau sur la plaine de l'Ulster. En parallèle, elle prévoit de neutraliser le héros en lui tendant des embûches, et elle va confier cette mission à 3 sorcières. Oh, elles sont horribles, borgnes, bossues, très versées, bien entendu, dans toutes les formes possibles de la sorcellerie. Et tout ça inquiète beaucoup le grand druide qui s'appelle Kedba. Ça s'écrit Cathbad, mais ça se prononce Kedba. Ce druide qui, évidemment, ayant un aperçu de l'avenir, se demande ce que l'on pourrait faire pour protéger le héros. Les sorcières font apparaître des bataillons fantômes tout autour du château. Toute la région résonnait de cris sauvages. On entendait les sons des trompettes et des cors. On entend les plaintes des femmes, des mourants qui appellent à l'aide. Hélas, nos ennemis brûlent et ravagent l'Ulster, s'écrie Cúchulainn, qui n'a pas l'intention pour autant de laisser ses harpies s'en prendre à son peuple. C'est ça toute l'histoire, et c'est d'ailleurs tout le sens de son héroïsme. Alors, il va se lever, s'armer, prendre la route seul et, malgré tous les présages de Kedba, il marche au combat. « Mon terme est proche », lance-t-il, « je le sais ». Et en effet, il est conforme aux conceptions celtiques de ne pas se contenter de subir son destin, je vous l'ai dit, il faut l'assumer. Or, les sorcières en question ont préparé trois javelots magiques. Le premier tue le cocher de Cúchulainn, le second frappe son cheval magique et le troisième, eh bien, il l'atteint lui-même au ventre. Et maintenant, le héros comprend que sa mort est proche. Alors, avec une ceinture, il s'attache à une pierre levée, il serre son bouclier, son épée, et il est là, prêt à mourir, debout. Et pendant longtemps, les ennemis vont hésiter à s'approcher de lui, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'une corneille est tellement peu effrayée qu'elle vient se percher sur lui. La déesse de la mort, la Morrigan, est venue le chercher. Alors, dans une sorte de halo tel que les légendes celtiques peuvent les figurer, il va s'éteindre. Il y a un des guerriers à ce moment-là qui passe derrière la pierre et qui va trancher la tête de Cúchulainn, qui finit ainsi le héros aux 100 combats, comme on l'appelait. À mon avis, si on les avait comptés, on se serait rendu compte qu'il y en avait bien plus que cela.
Vous écoutez Radio Classique.
Encore merci à Julia Lebrun pour nous avoir fait découvrir ces aventures tellement méconnues. Bonjour Christian Morin.
Bonjour Franck Ferrand, comment allez-vous?
Est-ce que vous allez aller à Villers-Cotterêts sur les traces d'Alexandre Dumas pour l'inauguration du musée de la langue française aujourd'hui? J'en parlais avec David tout à l'heure.
Écoutez, c'est un voyage en tous les cas qui devrait séduire.
Hein, c'est pas mal.
Je vais peut-être envisager ça ces week-ends. Le musée est ouvert le week-end, je suppose.
Bien sûr, bien sûr. Bien,
c'est parfait.
Je pense que ça va être un grand succès et il faut tellement la défendre, notre belle langue, n'est-ce pas?
À qui dites-vous?
Contre notamment quelques incursions qu'on peut même pas parler, qu'on peut même pas qualifier d'anglaises, dont on pourrait dire qu'elles sont franglaises.
Oui. Oh, les complications, enfin bon, ne rentrons pas dans cette spirale. Cet après-midi, vous évoquez Janie Marx. Rien à voir, je suppose, avec les Marx Brothers.
Non, mais avec Karl, oui, bien sûr, c'était son épouse.
Parfait, merci. 14h, Franck Ferrand.